Voilà, mardi 21h Dojo Bar.
Bonsoir, bonsoir à tous chers auditeurs pour le cinquième Dojo Bar, il est 21h, on va bien se marrer la gueule avec des sujets épiques. Aujourd'hui ce sera la dernière émission en direct avant le grand salon de l'E3 Los Angeles dont je vais vaguement reparler pendant le tour de table de l'actu. Tout d'abord bonsoir à tout le monde, bonsoir Mortal.
Bonsoir Méduse et bonsoir à nos invités, bonsoir Emmett.
Bonsoir.
Alors Emmett, c'est le fondateur et le leader de la Team Dash, qui est une team de joueurs autour des jeux Nintendo, et nous recevons également JCC,
bonsoir oui, JCC, bonsoir,
qui est rédacteur à Xboxygen.
Voilà, c'est ça.
Tout simplement.
Alors pour les gens qui n'auraient pas compris, Xboxygen, c'est évidemment un site spécialisé sur Microsoft.
Sur le point de croix.
Voilà.
Non, c'est le point de croix.
Ouais, exactement. Ce qui en fait donc techniquement un site inférieur à Nintendo.fr. Désolé, fallait choisir Nintendo.
En fait, non, c'est legit. Et donc, dans cette émission, donc, puisqu'on a quelqu'un d'Xboxygen, dans notre sujet un petit peu what the fuck, l'open bar, que notre rubrique bien connue maintenant, on va parler de la Xbox One, puisqu'on a eu une grande présentation de Microsoft en grande pompe sur à peu près, enfin en tout cas énormément de choses sur la Xbox One, donc on va en profiter pour en parler.
Tout à fait, oui, on va faire le point là-dessus.
Et ensuite, en dernière partie d'émission, on parlera de Mario Kart. Est-ce que après autant d'épisodes, autant de Mario Kart, la série Mario Kart peut se renouveler? On va livrer un peu nos impressions. Voilà, à 2 semaines de la présentation de la version Wii U. Et tout de suite, on va entamer un tour de table de l'actualité.
Voilà. Alors, qui c'est qui veut commencer?
Moi, je veux bien,
ouais,
volontiers.
Allez,
je veux bien pour qu'on passe à autre chose ensuite, exactement. Voilà, vu que c'est la dernière mission avant le 3, je pense qu'il était chouette de faire le point en ligne ou en podcast pour ceux qui répondent par après sur ce que nous on fait habituellement pendant le 3. Donc en fait, depuis 2010, Mortal et moi, on anime une web radio en direct dans laquelle on traduit les conférences majeures donc les conférences constructeurs de Sony, Microsoft et Nintendo. On les traduit en direct en français, donc si tu bites que dalle à la langue de Shakespeare, voilà, on t'offre la traduction directement avec les commentaires et tout ça. Donc c'est une initiative qu'on a eue en 2010 et qui est un peu inédite, rencontre son petit succès et qui plaît, donc on réitère ça chaque année tant qu'on se marre la gueule. Et peut-être que si on le peut cette année, on va même faire les autres conférences, enfin du moins moi, Mortal, je sais qu'il sera moyennement chaud pour certains.
Je suis pas chaud, c'est que j'aime bien dormir la nuit.
Voilà.
Je vais avoir des petits problèmes horaires aussi, parce que quand les conférences sont à 15h et quelques heure française ou 17h45 heure française, moi je suis au travail, c'est un peu compliqué.
Ouais, justement, moi je regrette de ne peut-être pas y être, et on confirmera ça dans les 5 jours avant le salon, mais il est probable qu'on fasse tout en français. Donc si vous prévoyez de pas dormir pendant 2 jours et de regarder des conférences, peut-être qu'on pourra avec nos voix vous accompagner. Voilà, c'est tout ce dont je voulais parler en fait.
On va enchaîner. Emmett, tu veux enchaîner sur ton petit sujet d'actu?
Oui, moi il y avait un petit sujet qui m'avait un peu marqué, c'était le lendemain de la conférence Xbox. En fait, il y a une petite news qui est tombée qui disait que la Wii U, donc au Royaume-Uni, s'était vendue sur Amazon avec une hausse de 875% des ventes. Donc un gros bond en avant, beaucoup plus de ventes que d'habitude. Donc on sait pas trop si c'est suite aux mauvaises nouvelles qui ont suivi la conférence Xbox ou si c'est un concours de circonstances, mais il faut se dire que quand même c'est passé de la position 390 à la position 40 dans le classement des ventes sur Amazon Royaume-Uni. Donc c'est pas rien, sachant que au Royaume-Uni ils vendent pas beaucoup de Wii U en ce moment.
Je crois que nulle part on vend beaucoup de Wii U en ce moment.
Et surtout en particulier au Royaume-Uni où en général ça fait un gros bide, ouais. Quoi. Et puis là, gros bond dans les ventes, et concours de circonstances ou pas, moi j'étais un peu étonné par cette annonce.
Non,
je sais pas si ça vous rappelle un petit quelque chose, mais au moment du... Alors, je sais plus si c'était le lancement de la PlayStation 2 ou l'annonce du lancement de la PlayStation 2, la Dreamcast avait fait pareil, une espèce d'énorme boom dans les ventes. Alors, un boom relatif à l'échelle de la Dreamcast. mais avait fait un énorme boom parce que finalement, les gens se disaient, ah, tiens, entre la PS2 et la Dreamcast, finalement, il y avait quand même assez peu d'écart. Mais ça me rappelle un peu ce phénomène-là.
Mais ici, on peut se dire aussi que c'est un boost tout à fait relatif, parce que si la Wii U au Royaume-Uni était position 390, ça veut dire qu'ils s'en vendaient 2 par semaine, et que là, ils s'en est vendu 10, quoi, tu vois.
Voilà, le chiffre est un peu trop tard.
Ouais. C'est, voilà, c'est
oui, ce le chiffre est à relativiser forcément, puisque voilà. C'est 860. Quand on multiplie par 8, enfin pratiquement par 9 le nombre de ventes, c'est qu'il devait quand même pas y en avoir beaucoup au départ.
À savoir que là-bas, la Wii U est quand même moins chère qu'ici. Elle est environ 40€ moins chère, à peu près. Donc,
Parce qu'Amazon Amazon France est déjà assez concurrentiel dessus, donc je sais pas si c'est ce que ça donne. Bah, je sais pas.
Oui, bah d'après ce que j'avais lu, c'était le pack premium était à peu près 315€ là-bas.
Mais ici donc, aussi, sur Amazon France, c'est pareil en fait. C'est 315 ou 319, enfin un truc du genre.
Mais, d'accord, j'ai pas bien suivi. Ouais.
Au-delà du fait que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est le fait que les ventes, enfin, faut voir toujours dans quelle mesure, mais imaginons que ce soit quand même dans une grande ampleur en termes d'unités, pas uniquement en termes de pourcentage, que ça ait augmenté. Je trouve ça quand même assez curieux que les gens, suite à une conférence de 2 heures, se jettent sur une autre console comme ça, alors que bon, sur Wii U,
ça peut dire qu'elle était bien pourrie quand même. Hein.
Oui, carrément. Sur Wii U, enfin, on va en parler après le sujet 360, mais grosso modo, la PS4, ils ont fait une conférence, mais ils n'ont pas trop montré les jeux. La Xbox One, ils ont fait une conférence, ils n'ont pas trop montré les jeux. Et la Wii U, elle est sortie depuis 6 mois, et ils n'ont pas encore trop montré les jeux. Non.
Il y a plus de jeux.
Ils vont le faire seulement à l'E3. Donc, je trouve ça un petit peu fou, les gens qui se sont jetés sur la Wii U, alors que, dans le fond, ils savaient rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus d'éléments, à la limite, avant la conférence qu'après pour dire, je chope telle console ou telle console.
Oui, comme le disait Emmett, c'est peut-être simplement un effet de hasard, quoi, un effet de promotion, un effet d'aubaine. Il y avait peut-être un pack qu'on n'a pas vu,
ou l'alignement des planètes, ou
l'alignement des planètes,
ou
le sexapile extraordinaire de Tonton Satoru. Enfin, ça peut être plein de trucs, quand même.
Là, tout de suite, je comprends mieux.
Ah, moi, s'il parle de banane, moi, c'est parti, hein, il m'en met mille. Bon, je vais enchaîner avec mon petit sujet d'actualité à moi.
Minute.
Ah. Ah, c'est vrai que ça fait du bien, ça. Attends 2 secondes.
Ouais. Ah. Ah. Oh. Elle était longue, celle-là. Et donc, Mortal, de quoi tu nous parles?
Moi, je vais vous parler d'un petit peu d'actualité sur Resident Evil 4. Quoi, de l'actualité sur Resident Evil 4? Mais t'es complètement zinzin. Eh bien oui, je suis complètement zinzin.
Tu imites super bien ma voix.
Voilà, en fait, Resident Evil 4 est toujours un jeu qui est énormément speedrunné. Et il se trouve que le record, en fait, de Resident Evil 4 en mode professionnel, donc le niveau de difficulté le plus élevé du jeu, a été battu durant ces 2 dernières semaines par un runner français, dont le pseudonyme est AM, et qui est très 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 connu sur la scène speedrun internationale, parce que c'est un... Ça fait partie des meubles sur l'événement de Speed Demo Archive, Awesome Game Done Quick, et c'est un runner très très connu, notamment pour ses performances sur certains Castlevania, pour ses performances sur Legend of Zelda Ocarina of Time. Enfin bref, voilà, c'est un mec qui envoie quand même du pâté, qui donc détient aujourd'hui le record non encore homologué, je précise, sur Resident Evil 4, mode professionnel, en 2h, 1 minute et une poignée de secondes, je me souviens plus exactement. Ce qui est quand même un sacré score, quoi. 2 heures et quelques pour finir un jeu comme Resident Evil 4 en single segment, donc en une seule traite, c'est quand même assez bourrin. Alors c'est le temps en jeu, je précise, hein, c'est pas le temps de faire le temps de la vidéo ou à partir du moment où il allume la console, c'est vraiment le temps affiché par la console en jeu.
Tu veux dire le temps passé sur les phases de jeu hors cinématique?
Voilà, hors cinématique, ah ouais, hors temps de chargement, hors... voilà, donc en fait quand tu regardes le run complet, ça doit faire 2h10 ou 2h15, un truc comme ça.
Donc ça veut dire il y a si peu de phases de jeu que ça dans RE4, parce que de mon souvenir il y a quand même pas mal de trucs à foutre.
Alors il y a énormément, il y a quelques très gros skips et puis il y a énormément de, enfin il y a énormément de boulot derrière. Hein. C'est un mec qui il y a 6 mois le runnait, avait déjà un record assez impressionnant pour l'époque, et le runnait en 2h37.
Ah oui.
Donc c'est quand même une demi-heure d'amélioration. Le mec dit les 80, je crois qu'il reste 80 ou 90 secondes pour passer en dessous des 2 heures, il pense que c'est faisable. Et donc dans le même temps, alors ça c'était il y a à peu près 2 semaines, peut-être un tout petit peu plus, dans le même temps il y a un tool assisted speedrunner, un taser donc. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le tool assisted speedrun, au lieu de prendre un joueur et une manette et de le mettre devant une console et une télé et de lui dire voilà tu finis le jeu très vite, on prend en général le même joueur, on le met devant un PC, on lui file un émulateur, on lui dit voilà tu fais jouer l'émulateur très vite. Donc c'est un bon résumé quoi, c'est pas un joueur qui joue véritablement avec une manette, c'est on fait jouer un émulateur à un jeu et donc forcément on a une espèce de partie parfaite quoi. On a une partie type, on a une espèce de référence, voilà, on peut pas. Théoriquement, c'est la partie parfaite.
Ouais, en gros, c'est qu'en fait. Oui, c'est du frame by frame, quoi. C'est à la frame près, quoi.
C'est quasiment à la frame près, et surtout, le mec fait la partie parfaite, c'est-à-dire que. Voilà, je veux dire, t'imagines sur Mario Kart, le mec, à chaque fois qu'il récupère un cadeau, il récupère systématiquement une carapace bleue. Oui, c'est un peu ça, le truc.
Ah oui, c'est moi, je fais, en grand inculte que je suis dans le domaine du speedrun, et dans bien d'autres domaines, bien entendu, je pensais simplement que c'était le fait de pouvoir faire plusieurs runs et de prendre à chaque fois les meilleurs runs qu'on a fait, de les mettre bout à bout, quoi.
C'est presque ça.
C'est l'idée, mais sauf que là,
c'est un peu l'idée, voilà. Mais disons, par exemple, là, le mec dans RE4, typiquement, il va envoyer une grenade, il tue 3 ennemis d'un coup, parce qu'évidemment la grenade, il la lance exactement au bon moment, ça c'est plus le frame by frame. Donc vraiment le fait de jouer très très lentement au jeu, et les 3 mecs meurent, et il récupère 3 grenades. Voilà. Le drop complètement improbable, et en réalité, c'est juste que voilà, le mec il lâche la grenade, ça explose, il voit qu'il y a du fric, des muningues, il fait ok ça m'intéresse pas, il revient en arrière, commence jusqu'à ce qu'il ait les 3 grenades.
Ah oui.
Voilà, typiquement, c'est ce genre de manipulation-là. Donc, il y a un temps théorique qui a été fait par un taser qui s'appelle Soulcal, enfin, dont le pseudonyme est Soulcal, et qui a établi un record à 1h37 et des patates, donc qui est quand même 23 minutes en ayant à peu près le même chemin que le speedrun, on va dire, officiel, et qui donc établit de fait un record.
Grosse marge de progression, quoi.
Il y a une grosse marge de progression, sauf qu'il y a un petit détail quand même, c'est que le TAS a été fait en mode normal et pas en mode professionnel.
Ça change déjà pas mal de données. Hein.
Ça change quand même quelques petites données. Alors, le taser sait que s'il l'avait fait en mode professionnel, il aurait perdu à peu entre 5 et 7 minutes. Voilà, à peu près. Et ce qui est très 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 intéressant, pour terminer avec ce petit sujet, c'est que sur le channel YouTube de RealMeUp, je donnerai je pense l'adresse au niveau du podcast, mais sinon youtube.com/RealMeUp, RealMeUp, vous pouvez voir le TAS, donc commenté par RealMeUp, et par AM, donc le champion du monde, pour l'instant non officiel, de Resident Evil 4, au niveau du speedrun. Donc on a... disons un mec qui s'y connaît vraiment et puis un habitué du tool assisted speedrun qui commente à peu près toutes les techniques utilisées dans ce run là. Et donc voilà, c'est vraiment, on passe une heure et demie super intéressante, on a vraiment toutes les techniques décortiquées une par une.
C'est quand même un univers à part, hein.
Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est absolument
oui,
fascinant,
on avait compris, vu que
ce genre de choses là.
Plus d'une actu sur deux, tu nous parles d'un speedrun, donc on a fait quoi ? Je trouve que c'est assez intéressant à chaque fois, en fait. Mais en fait, les mecs, quand ils commentent sur leur chaîne YouTube, etc., est-ce que ça permet... Est-ce que, au-delà du fait qu'ils expliquent pourquoi ça améliore leur temps, est-ce que ça offre parfois aussi des petites techniques de gameplay pour les gens qui font le jeu normalement, mais qui... voilà.
Alors, il faut savoir que les communautés du... Enfin, le Tool Assisted Speedrun et le speedrun, il faut voir ça quasiment comme deux... C'est un petit peu comme comment dire... je sais pas, le 100 mètres d'eau et puis le 100 mètres crawl. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est-à-dire, techniquement, on fait la même distance, on fait exactement la même chose, sauf que c'est deux catégories différentes. Mais il y a souvent, il y a même très très souvent, du reversement du speedrun vers le TAS ou du TAS vers le speedrun, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont découvertes, soit par des runners, soit par des tasers, et qui finissent par être exploitées par les autres. Donc c'est vraiment très très collaboratif en plus comme mode de fonctionnement.
Ouais, mais je veux dire, parfois c'est des techniques aussi qui servent pas uniquement à simplement aller plus vite, mais peut-être faire les niveaux différemment ou quoi pour les gens, quoi. Dire moi qui n'ai rien à foutre du speedrun, en regardant la vidéo des explications sur R4, est-ce que je peux me dire tiens, en fait on peut utiliser telle technique pour défaire tel ennemi ou je sais
ah,
pas
mais complètement,
moi,
ouais,
ça,
complètement.
Ça
peut... il y a des techniques exploitables pour le joueur lambda. Alors évidemment, l'objectif du runner, c'est... alors Après, t'as encore le problème du single segment et du multi-segment. Faudra peut-être un jour qu'on fasse une émission spéciale sur le speedrun, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais le single segment, tu vas forcément prendre un petit peu moins de risques que le multi-segment.
Ouais.
Parce que quand t'es en un seul segment, ça veut dire que si tu tentes un truc très risqué, tu te chies dessus, c'est fini, quoi.
Ouais, tu perds trop de temps.
Tu perds du classement, tu peux pas te permettre. En multi-segment, tu peux prendre les risques maximum. Et puis en tasse, évidemment, quand t'es en tasse, là, tu prends absolument tous les risques, tu fais les techniques les plus risquées, et en plus, tu fais tout. Tu fais de la manipulation de la chance, tu utilises les chemins les plus risqués, tu utilises les techniques les plus risquées. De temps en temps, tu mises sur le fait que, quand on passe à tel moment devant tel ennemi, il y a une frame d'invulnérabilité complètement hallucinante qui dure genre 2 frames, mais le mec, il peut la choper. Un vrai runner aura beaucoup plus de mal à la choper.
Enfin,
tu vois, c'est tout ce côté-là qui est, voilà. Bon. Mais je trouvais ça intéressant qu'un jeu comme Resident Evil 4 continue à avoir une actu dans ce domaine-là,
ouais.
De gens qui essayent quand même de faire vivre le truc et qui arrivent mine de rien à battre des scores et puis à baisser encore le temps du speedrun.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un jeu qui le mérite quelque part, je pense.
Je pense que c'est un jeu qui le mérite. On va se faire une première petite pause musicale.
On va quand même préciser que JCC n'a pas de sujet.
Non, on a un gros sujet juste après avec la Xbox One.
Il y a un gros sujet.
Petite réserve. Okinou.
Voilà, donc je vais juste vous rappeler que vous pouvez nous contacter en direct sur Twitter, @NintendoJoFR ou en utilisant Croisillon Dojobar.
Hashtag Dojobar, pour ceux qui n'auraient pas capté.
Hashtag Dojobar par mail, dojobar@nintendojo.fr. On vous promet, on lit tout, on répond tout. Ou alors sur IRC, vous pouvez prendre votre plus magnifique butineur et aller sur irc.nintendojo.fr. Vous avez une petite procédure de connexion quasi automatique et vous pouvez venir discuter directement avec nous.
Allô, allô. On se retrouve donc dans un instant.
Là, on va s'écouter.
Petite pause musicale.
Tout à fait. On va s'écouter un extrait de Legend of Zelda Skyward Sword, puisque j'ai eu la chance d'aller au concert Symphony of the Goddess qui était au Palais des Congrès à Paris. Donc j'en profite, je remets un petit peu de Zelda dans la boucle.
En plus, tu nous as préparé un petit
article qui sera disponible dans très peu de temps, si tout va bien.
Demain à 15h30. Même.
D'accord, demain à 15h30. Voilà, donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Song of the Goddess, le son de la godasse, donc. Et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout à l'heure. Voilà, de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de n'imposer notre main à toutes les nations. Je sais plus ce que c'est la suite.
Nous non plus.
Genre, t'as jamais vu le dessin animé Pokémon?
Si.
Mais si ça se trouve en Belgique,
en fait, je sais même
pas
si j'ai déjà vu un épisode. Si, mais je sais même pas si j'ai déjà vu un épisode en entier, en fait.
Alors, en entier, peut-être pas, mais si tu veux, c'est un peu comme le téléachat. Quand tu tombes dessus, tu scotches tellement que t'arrives pas à décrocher. Moi, ça me fait cet effet-là à chaque fois.
Un être étrange, toi.
Mais j'assume plus ou moins.
On avait compris.
Bref, donc, nous allons entamer notre sujet open bar, la Xbox One. C'est pas possible, je vais le flinguer. La Xbox One Kenobi a-t-elle la force? Je dois t'avouer que je kiffe cette intro.
Merci.
Voilà, donc on va discuter un petit peu de la Xbox One, la nouvelle console de Microsoft. Alors je ferai d'abord une toute petite remarque que j'ai faite un petit peu discrètement sur le forum du dojo. Xbox 360, Xbox One, Microsoft, faut apprendre à compter. Non mais c'est agaçant, moi je trouve ça lourd, ça me gonfle, c'est ce genre de truc, moi je m'en vais, ça me gonfle, voilà, je me tire.
C'est le système all-in-one, donc on peut comprendre quoi.
Alors c'est pour ça, enfin l'origine du nom, c'est ça?
Oui, voilà, c'est le tout en un en fait, hein. C'est l'aspect une box qui représente plusieurs fonctionnalités, le média, la télé, le jeu. Donc le all-in-one.
La télé beaucoup, donc.
Le all-in-one, et du coup le one représente le tout, et ils ont décidé ou trouvé l'ingénieuse idée de le rajouter derrière Xbox pour en faire un nom magnifique, Xbox One. Voilà.
Est-ce que ça va prêter à confusion, tout comme la Wii U prêtait à confusion ? Xbox One, c'est la Xbox 1, c'est la première Xbox, retour. Alors, en 2002, 2003.
Pour les Américains, c'est peut-être un terme plus, plus clair pour eux, ou dans le sens Microsoft. Après, pour nous, francophones, qui traduisons mot pour mot One en 1, forcément, ça pourrait porter à confusion, c'est clair.
Oui, mais enfin, en même temps, en Europe, elle ne sera pas vendue comme Xbox 1, elle sera vendue comme Xbox One, je suppose.
Elle ne sera pas vendue du tout, je crois. Hein.
C'est sûr, par rapport à PlayStation et la marque PlayStation, qui est une marque quasiment connue de tout le monde en Europe, surtout dans les pays latins, l'Xbox, avec le nom Xbox One, peut avoir des difficultés rien qu'avec ça. Hein.
Mais c'est vrai que ce qui est assez curieux, c'est que finalement, alors pour les gens qui ne connaissent pas, la PlayStation 3 aux États-Unis a une publicité très agressive où vous avez écrit it does games, it does Blu-ray, donc elle fait les jeux, elle fait les Blu-ray, elle fait ci, elle fait ça, et la fin de la pub c'est it does everything, elle fait tout. Et j'ai l'impression qu'effectivement Microsoft est un peu en train d'emboîter sur ce créneau-là.
Oh bah, ça a déjà commencé avec la Xbox 360.
Ah, sauf qu'ils faisaient pas Blu-ray.
Non,
par exemple,
DVD, mais
ils misaient
énormément sur la VOD, où il y avait un service
mais
de
tu pouvais pas jouer
à demande très très complet déjà.
Mais tu pouvais pas jouer avec un God lumineux dans ta télé.
Ah ça non, par contre, c'est exclusif PlayStation 3.
Ouais. C'est rude, oui, on a des God depuis plus longtemps,
aussi.
Mais ils sont pas lumineux, malheureusement.
Et puis ils ont pas. Je suis désolé, le PlayStation Move, ça ressemble quand même à un gros dildo. Hein. Faut quand même être honnête. Il y a un moment où faut dire les vrais mots. Alors que la Wiimote, ça ressemble effectivement à une télécommande. C'est.
Carrément. Mais pour le coup, le côté all-in-one, etc. En voyant la conférence, j'ai eu l'impression en fait qu'ils présentaient la 360, quoi. Parce que finalement, la 360, je trouve qu'elle avait à peu près la même vocation, particulièrement aux États-Unis, avec plusieurs services. Bon, je sais pas trop si je suis dans le bon avec cette perception-là ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas en rupture avec.
Mais c'est quand même une sorte de continuité hein, de ce qu'ils ont fait avec la Xbox, notamment là en fin de vie, depuis même ces deux dernières années, avec une nouvelle interface, l'interface métro qui ressemble à Windows 8, qui intègre aussi des onglets vidéo, musique, Xbox vidéo, Xbox musique, TV aussi. Et là, ils vont dans la continuité avec la Xbox One, avec une qualité, en théorie, meilleure. Une interface plus aboutie avec Kinect qui est intégrée de base à la console.
Oui.
Alors est-ce que le parce que tu parles d'interface plus aboutie, donc finalement pour toi on est vraiment dans la continuité, c'est-à-dire que c'est la Xbox en plus grand, plus gros, plus fort, mais c'est à peu près tout. Quoi. Enfin il n'y a pas de rupture complète avec ce qui s'est fait avant.
Bah actuellement non. Hein. Je pense que là ils amplifient ce qu'ils ont fait avec la Xbox 360. Là, ils vont intégrer Kinect de base, ce qui n'est pas le cas avec la 360.
C'est pas le cas avec la 360. T'as pas tous les packs ne sont pas avec Kinect.
Alors
maintenant
oui, mais pour ceux qui avaient déjà la Xbox,
ouais, d'accord. Par exemple, toi, Medus, t'as pas de Kinect.
Mais non, parce que en plus, j'étais allé essayer le Kinect avant sa sortie et moi je suis quand même assez grand et j'ai remarqué que quand t'étais vraiment très grand, il fallait vraiment que t'aies beaucoup plus de recul. Et le problème si j'ai Kinect, c'est que je recule, je passe par la fenêtre en fait, tu vois.
C'est le défaut du Kinect première génération, hein, c'est qu'il faut une place immense dans son salon pour l'exploiter au minimum.
C'est encore très américain ça, c'est-à-dire que la place dans le salon, eux ils l'ont, nous on l'a pas.
Voilà.
Puis il faut avoir l'utilité en jeu. Le premier Kinect pour des jeux orientés, on va dire gamer, quoi. Vu qu'il y a un temps de latence dedans, c'est mort tout simplement.
Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup marrer à propos de Kinect, j'en profite pour raconter une petite anecdote, c'est que apparemment les gens qui regardaient la conférence Xbox One sur leur Xbox 360, alors je sais pas comment et par quel biais, chaque fois que le mec disait, donner un ordre genre Xbox Watch TV, donc Xbox regardez la télé, les mecs qui avaient le Kinect branché, ça faisait Xbox, ça donnait l'ordre à leur Xbox.
Ah. Ouais. Alors oui, il y a eu certains cas, paraît-il, mais bon, c'était pas forcément généralisé. Hein. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas eu le problème.
Ah ouais. Parce que tu l'as en français.
Non, après.
Non, c'est pas localisé.
Anglaise. Si, c'est localisé, mais j'ai les fonctions anglaises, donc ça aurait pu fonctionner, mais c'était pas forcément. Ça n'a pas marché à tout le monde, sur tout le monde en tout cas.
Et est-ce que, enfin, pour toi qui a Kinect et qui, enfin, je sais pas quelle utilisation est-ce que tu en fais, mais est-ce que leur nouveau Kinect te laisse apparaître des perspectives intéressantes en termes de jeu, on va dire, on va mettre de côté tout ce qui est interface parce que ça a l'air d'être pas mal fonctionnel. En termes de jeu pur, est-ce que ça a l'air d'être d'amener quelque chose selon toi?
Alors, cela peut promettre plus de jeux gamer du fait que le Kinect 2, on va l'appeler. Est techniquement bien plus abouti que le premier au niveau de la reconnaissance. Il reconnaît les doigts de la main, alors qu'avant il reconnaissait qu'un bout de bras.
Ouais.
Là il peut reconnaître les doigts de la main, les mouvements sont bien plus précis. Le recul, il y a beaucoup moins de recul également. Et donc, potentiellement moins de place, ça prendrait moins de place dans le salon.
Ouais. Est-ce que tu penses que la partie reconnaissance faciale pourrait être utilisée en jeu? Genre quand on sent que le joueur est nerveux ou quand on sent que le joueur est en train de s'endormir, tout d'un coup, paf, on fait apparaître un monstre, enfin tu vois, un truc comme ça quoi.
Voilà, ils peuvent jouer sur les émotions, tout à fait. Et le Kinect 2 est capable de calculer, enfin de sentir les pulsations cardiaques et pour interagir avec le jeu.
Moi j'ai lu ça aussi, je trouve ça assez surprenant. Je sais pas comment techniquement est-ce que ça peut fonctionner.
Alors, on pensait au Vitality Sensor
qui n'est jamais sorti Nintendo. Ouais.
Voilà. Et il est aussi capable, par exemple, sur un jeu de fitness, quand vous faites des mouvements, de voir les muscles qui travaillent sur le mouvement effectué. Donc, par exemple, si vous faites un mouvement de bras, il va bien voir que vous travaillez le haut du corps et, par exemple, je sais pas, l'épaule. Et donc, ça peut aussi permettre des idées de gameplay par rapport aux efforts consentis devant la caméra.
Ouais, mais ça va fonctionner que si t'es en tenue super stretch, moule boule, quoi.
Après, les conditions optimales. Non,
en combinaison de
slag. Le Kinect premier du nom, alors non seulement il faut pas être trop grand, pas être trop petit, il faut avoir un certain recul, mais en plus, si t'as des vêtements très amples, il a un petit peu du mal aussi.
Ouais. Alors là, ouais, effectivement, après les démonstrations qu'ils ont fait, ils avaient tous des bodies sur soi, donc après à voir en conditions réelles. Ça, on pourra le voir qu'à l'E3, malheureusement.
Alors, il y a Mecton qui nous dit sur le chat IRC que la Xbox One, ce sera la console qui se foutra de ta gueule quand tu passes dehors. Avec la Kinect. Pour le coup,
mais,
c'est
mais
pas
y
mal.
Mais il y a moyen en plus. Hein, c'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a des développeurs un petit peu malicieux, si l'API est suffisamment ouverte, qui seraient capables sur le Xbox One Live, enfin, je pense qu'il va toujours s'appeler le Xbox Live, mais qui serait capable sur le Xbox Live de faire des jeux comme ça, c'est-à-dire un truc ultra frustrant, et quand le Kinect te voit que t'en as ras-le-bol, le jeu se fout de ta gueule.
Ça peut être pas mal.
Moi en tout cas je serais client. Hein.
Une application intéressante.
Ça peut être de bonnes idées pour des indés pour par exemple. Et aussi après Kinect va être compatible Windows, ça peut aussi permettre des applications Windows. Par le biais des émotions aussi, ça peut ouvrir plein de perspectives.
Alors après, faudra voir quand même la précision du truc, c'est-à-dire que si...
J'annonce quand même un truc en 30 images secondes...
Oui, non, mais c'est pas tellement à ça que je pense, c'est... Je veux dire, tu montres tout le temps les dents en faisant... Est-ce que le truc peut vraiment se discerner qu'en fait t'es en train de te marrer? Ou de te foutre de la gueule du Kinect?
Ouais.
Alors là, bah... C'est les promesses, en tout cas. Hein. Donc là, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais... Il est possible qu'ils reconnaissent toutes les émotions possibles que l'on peut produire. Donc ça, c'est avec l'usage qu'on va le savoir.
Et puis ce sera une question aussi de développement derrière, de voir si les mecs seront foutus de pondre des algorithmes
voilà,
qui tiendront compte aussi de plein de morphologies humaines, ce genre de choses-là. Quoi.
Ouais, voilà, faut que les développeurs arrivent à maîtriser l'outil qui est entre leurs mains et bien utiliser tout le potentiel.
Bientôt, il va falloir jouer avec un masque si on veut être tranquille.
À ce sujet-là, justement, il y a eu avant présentation pas mal de rumeurs indiquant qu'il fallait être connecté en permanence. On sait maintenant que Kinect devrait être allumé en permanence. Il y aura pas mal, si pas toutes les fonctionnalités de la machine qui nécessiteront d'être en ligne en permanence. On n'a pas l'impression d'installer Big Brother un peu dans nos salons, là?
Ah, c'est la grande question. Alors, il y a aussi tout d'abord le fait que Kinect serait toujours allumé, même quand la Xbox est éteinte, pour détecter le lancement de la console, quand on dit Xbox Start, par exemple.
Oui.
Alors, on a eu une news aujourd'hui comme quoi, en fait, on pourrait désactiver le Kinect même quand la Xbox est éteinte. Donc ça, c'est à voir. Après, l'usage obligatoire de Kinect, donc ça, ils l'ont confirmé.
Non, mais forcément que tu peux désactiver le Kinect quand la Xbox est éteinte, tu débranches la prise et puis c'est réglé. Quoi,
ah
je
oui,
dis.
Voilà. Après, bon, voilà. Puis si tu veux être sûr de pas être observé, hein, tu mets un scotch sur le capteur.
Voilà. Tu mets un dessin de ta bite. D'une bite, c'est pas de la tienne, sinon.
Non, mais c'est quand même. Je sais pas, c'est quand même un peu. Enfin, je dis pas que c'est. Je trouve ça relativement malsain. Enfin, c'est une question de point de vue. Après, je veux dire, je comprends l'utilité. Je comprends le fait que tu fasses, je sais pas, un détecteur de présence qui fait que dès que quelqu'un s'assoit dans le canapé, le truc s'allume. Et je comprends l'intérêt, si tu veux, d'un point de vue consommateur. Mais je me dis que c'est quand même relativement malsain d'avoir une caméra branchée en permanence dans ton salon. Il suffit que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a une faille de sécurité dans les Xbox qui met du temps à être corrigée ou je sais pas quoi, et on peut aller espionner dans le salon de quelques millions d'Américains et d'Européens.
Mais après, ça revient au même quand sur les ordinateurs portables, ils ont tous des webcams. Enfin, un bon pirate, il peut prendre le contrôle de ta caméra et voir ce que tu fais chez toi. Hein.
Ah, mais donc, complètement. Mais c'est juste que là, c'est un peu particulier parce que tu.
Là ils le vendent en tant que concept, quelque part.
Après, faut voir le périmètre où il y aura des ouvertures ou pas sur l'usage de la connexion du Kinect en permanence, quoi. C'est ça, on n'a pas encore les détails précis sur l'élite de perception de reconnaissance.
D'ailleurs, est-ce que, alors ça je l'ai pas lu, je l'ai lu nulle part, mais est-ce qu'il prévoit d'avoir des applications de type visioconférence, c'est-à-dire de pouvoir dire finalement on a 2, 3, 4, parce que là...
Oui, ils en ont parlé, hein.
Parce que la visioconférence dans le salon des gens, c'est quelque chose dont on parle depuis quelques années, mais qui finalement n'arrive pas, et je me dis que Microsoft, là, ils ont peut-être une petite carte à jouer sur le sujet.
Ça arrivait avec la Wii U.
Wii U Chat.
Voilà. Bah, actuellement, avec
oui, mais c'est pas 360, c'est pas une vraie caméra de salon.
Déjà, hein. Mais si on a Kinect, on a déjà un outil de visioconférence avec Kinect qui marche à peu près correctement. Mais là, avec Xbox One, comme vous le savez, Microsoft a racheté Skype il y a peu de temps, ouais, l'année dernière, il me semble. Et donc, Skype va être complètement intégré à la Xbox One. Et donc, il serait possible de faire des visioconférences, même pendant un jeu, jusqu'à 4 personnes, il me semble. Après, ça a confirmé. Donc, ça va être bien développé sur cette nouvelle version.
Alors, on a beaucoup parlé de Kinect, mais est-ce que c'est pas un petit peu pour masquer la pauvreté, entre guillemets, du nouveau pad? Parce que c'est vrai que, moi, quand j'ai vu le nouveau pad de la Xbox One, je me suis dit, tiens, ils ont juste repris le pad de la 360, voilà, ça c'est fait. Tu me confirmes que finalement, il n'y a pas le nouveau pad, il n'est pas si nouveau que ça, et qu'au final, à part peut-être quelques options d'ergonomie, finalement...
Voilà, et visuellement, il n'y a rien de bluffant ou d'extraordinaire quand tu le vois par rapport à l'autre. On dirait quasiment deux jumeaux.
Mais l'autre est assez ergonomique. Enfin, il est bien celui de la 360.
Voilà, la manette 360.
Il n'y a pas les pads symétriques.
Ouais, mais elle avait quand même une très bonne réputation d'ergonomie. Donc, à mon avis, ils n'ont pas voulu trop casser cette ergo-là. Après, ils ont juste fait, à mon avis, de l'amélioration des boutons, notamment les gâchettes, où il y aurait des vibrations dessus. Après avoir l'utilité de celle-ci.
Plutôt, est-ce que c'est de la vibration ou plutôt un truc qui s'apparenterait à un petit retour de force
Alors, il y a eu des confusions. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore à 100% si c'est du retour de force ou du vibration. Au début, on parlait de retour de force et après, on entendait plutôt finalement des vibrations. Donc, ça reste à confirmer.
Ouais, parce que les vibrations, oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, mais le retour de force sur les gâchettes, là, c'est marrant comme option, en tout cas. C'est intéressant d'y avoir pensé. Ah, c'est ça, vrai c'est... que les vibrations dans les gâchettes, bon, pourquoi pas, mais je veux dire, on l'a déjà dans la manette, c'est pas forcément...
Exactement, oui. Alors là, s'ils mettent pas le retour de force, il y a peu d'utilité pour une vibration bête et méchante, quoi. Ça, c'est évident. Et pour, pour les FPS ou des jeux de voiture,
ouais.
Là, ça peut être une très belle manette. Hein.
Ah, ça peut être chouette. Moi, j'imagine bien pour l'FPS, en tout cas, d'avoir le flingue qui est enrayé, tu vois, t'as une résistance sur le machin, ce genre de conneries-là.
Exactement.
Ça peut, ouais. Voilà, ça peut selon apporter un petit plus en immersion.
Voilà, ouais.
Ouais, ou selon le type d'arme, que ce soit ou un
au contraire,
peu plus
mou. Ton chargeur est vide ou je sais pas quoi, le truc, la gâchette répond quasiment plus, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'elle est dans le vide. Enfin, je sais pas, ça peut être. Je me dis qu'il y a peut-être des petites choses intéressantes. Bon, ça reste des petites. C'est pas très révolutionnaire, mais ça reste des petites choses qui sont peut-être intéressantes.
Ouais,
voilà, on est quand même dans la continuité. Quand à part Kinect, il y a pas. Alors si, il y a quand même une nouveauté. Le Cloud.
Alors oui, il y a le Cloud, mais bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'usage. Final du cloud, mis à part à mon avis les sauvegardes qu'on peut faire de ces jeux, le stockage de jeux à mon avis ça doit être possible.
Alors tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'on peut déjà synchroniser son compte Xbox Live aujourd'hui avec les serveurs de Microsoft pour retrouver ses sauvegardes partout, son profil partout et.
Ah oui, on a un espace de stockage de 500 mégas si je dis pas de bêtises. Où on peut sauvegarder, mettre quelques données de sauvegarde sur son profil et donc le retrouver si on se connecte ailleurs. Donc là, après, on ne connaît pas la capacité totale du cloud pour son profil, si ça peut monter à 1, 2 ou 3 gigas par exemple. Et après, il y a d'autres fonctionnalités du cloud qui permettraient, alors là c'est du conditionnel, d'améliorer les capacités techniques d'un jeu.
Voilà, alors pour les gens qui se poseraient la question de comment ça pourrait marcher, parce que je sens venir le truc gros comme une baraque.
Voilà, interruption, il y a Pleska qui nous dit sur Twitter que les vibrations seront orientées pour permettre de savoir d'où vient le tir.
Ouais, wow. Alors j'ai rien compris.
Mais en gros, si t'as la gâchette droite qui vibre.
Mais j'ai toujours
sur
la gâchette droite.
Qui vibre sur l'extrémité inférieure, bah peut-être qu'on tire par en dessous.
Et quand on te tire par
l'exemple
derrière, en
particulièrement
fait,
bien choisi.
Il y a le Kinect qui t'envoie des cailloux.
Ouais, voilà.
Non, mais pourquoi pas. Oui, d'accord. Non, mais, ouais, okay, non, mais dans ces cas-là, voilà, effectivement, ce serait pas un retour de force, ce serait une. Après, c'est à voir ce que ça donnerait en jeu. Je continue sur la partie Cloud Gaming. Le Cloug. Donc il faut savoir que quand on joue à un jeu, il y a un certain nombre d'éléments qui sont parfois précompilés dans le jeu. Par exemple, typiquement les shaders et les choses comme ça sont en général précompilés, mais pas toujours. Et les éléments non compilés de ce genre-là ne prennent pas une place énorme, c'est-à-dire que les envoyer sur internet, les faire compiler à des gros serveurs qui les compileraient avec des options de ouf malade et les renvoyer à la console, c'est pas quelque chose de complètement surréaliste. Parce que c'est des informations qui mettent énormément de temps, plus de temps à être calculées, si vous voulez, qu'à être transférées véritablement par Internet, à condition d'avoir évidemment une ligne correcte. Donc ça pourrait effectivement améliorer un petit peu le rendu des jeux, ça resterait assez optionnel ou assez, assez superficiel, mais ça permettrait d'avoir, on va dire, des niveaux de calcul que ne serait pas capable d'avoir la console si elle devait le compiler, en tout cas sans sacrifier à des temps de chargement gigantesques. Donc ça pourrait aider un petit peu à avoir des temps de chargement beaucoup plus courts, ou au contraire à avoir des rendus meilleurs en augmentant la profondeur de champ du calcul de je sais pas quel shader. Je dis un peu n'importe quoi, hein. Il n'y a pas de profondeur de champ sur les shaders, mais c'était pour donner un exemple, hein. C'était juste pour dire, voilà, on pourrait imaginer de faire un calcul plus complexe à une machine plus costaud, ou à plusieurs machines plus costauds disponible sur internet et renvoyer le résultat à la console. Donc c'est pas complètement surréaliste maintenant. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faudrait que les développeurs se débrouillent pour que ce soit optionnel et pour que si par hasard la connexion coupe, ça coupe pas tout le jeu, quoi. Alors une partie du jeu qui serait streamée comme ça, je sais pas, pourquoi pas. C'est pas impossible, mais je me demande comment ça va tourner dans quelques années. Moi, j'imagine le côté un peu, entre guillemets, rétro gaming, c'est-à-dire que dans 10 ans, quand la Xbox One sera obsolète, qu'est-ce que ça va donner, ce genre de fonctionnalité-là, quoi ? Est-ce que ça va être maintenu ou pas ? Donc, on va avoir des jeux qui vont plus avoir la même tronche.
Parce que s'ils coupent les serveurs.
En 2020 qu'en 2013, quoi, c'est un peu bizarre.
S'ils coupent les serveurs du cloud, ton jeu va être à moitié fonctionnel. Et après, l'autre question qui peut être problématique, notamment pour les éditeurs tiers, c'est qu'ils devront s'adapter pour un développement spécifique pour Xbox One, utilisant Cloud, et puis en faire un autre pour la PS4, qui n'auraient pas cette possibilité. Est-ce qu'ils vont pouvoir exploiter correctement ce genre de possibilité de clouding? Ça, c'est une grande question, et du coup, ça pourrait être réservé ou utilisé que pour des jeux exclusifs Xbox. Bah,
comme tout ce genre d'options un petit peu spécifiques comme ça, de toute façon, ce sera réservé à
first party.
Enfin, ce sera forcément réservé aux first party. Il y a pas les third party peut-être l'utiliser, mais ça va être très très mineur. Mais en même temps, je te dis, je vois pas véritablement l'élément technique qui pourrait vraiment être graphiquement ou sonorifiquement amélioré par le cloud. Il y a des possibilités, mais ça me paraît quand même extrêmement restreint. De toute façon, ce sera forcément des choses finalement assez
des détails marginaux.
Ça va être du détail, voilà.
Peut-être des choses un peu scriptées comme ça.
Oui, peut-être des choses scriptées.
Scriptées, ouais.
Moi, c'est quelque chose qui me laisse, non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que je suis un petit peu curieux évidemment, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est ni un argument, ni, enfin, c'est peut-être quelque part une partie du futur du jeu vidéo, on sait pas, mais actuellement, je pense pas que ce soit quelque chose de capital pour la console, en tout cas, c'est pas sur ça que la console fera la différence.
Je vais m'excuser, c'est le téléphone de Dojo Bar qui sonne. Oui.
Alors.
Oui, c'est Tonton Satoru à l'appareil.
Tonton Satoru, comment ça va?
Ça va pas du tout, putain, vous parlez que de Microsoft depuis tout à l'heure.
Tonton, c'est bon,
n'importe quoi, on en est marre.
Ok. Écoute, tu sais quoi, on va passer à un autre sujet, je pense, et puis comme ça, ce sera réglé. D'accord?
Vous avez intérêt, bande de petits cons.
Voilà, c'est ça.
Allez, ciao les enculés.
Ah, Satoru est vénère.
Je vous prie de m'excuser, le téléphone du Dojo Bar, c'est un peu n'importe quoi, mais. Iwata en direct sur le Dojo Bar, donc il va falloir qu'on écoute. Messieurs, si vous avez encore un sujet à aborder, c'est maintenant, et puis après j'arrête.
Oui, moi, je voudrais qu'on aborde l'occasion.
Oui, parce que c'est vrai que ça a été le sujet de
Bazouleux.
Le sujet qui fâche.
Le sujet qui fâche. Donc, apparemment, ce serait difficile pour les gens de revendre leur jeu Xbox One en occasion, pour la simple et bonne raison qu'une fois le jeu installé, en fait, le jeu serait associé à la console, donc comme une licence, et qu'au moment de la revente, il y aurait peut-être possibilité de cession de licence, si pas, la personne qui rachète le jeu devra simplement payer le prix plein. En fin de compte, ça s'apparentera du dématérialisé, quoi. Pas du tout JCC, si tu peux nous éclairer sur ça.
Oui, bah, c'est à peu près tout bien résumé. Donc, Microsoft a confirmé qu'il y avait possibilité de revendre ces jeux. Après, ils n'ont pas précisé à 100% la façon, comment ça va se dérouler complètement. Il y a plusieurs rumeurs qui viennent des quelques revendeurs actuellement. Après, il serait possible donc de revendre même à un magasin le jeu chez un revendeur qui a accepté les conditions Microsoft.
C'est-à-dire que
alors
ça sent le vin à gaz. Hein.
Alors voilà, faut retrouver un revendeur agréé Microsoft, on va dire, qui pourrait récupérer la licence et donc l'exploiter pour la revendre derrière. Alors après, la différence de prix sur le prix de rachat et le prix de vente derrière, on n'a aucune information là-dessus. Mais la possibilité existe, en tout cas de revente.
Et bien entendu, Microsoft se sucrerait une partie du pognon au magasin, j'imagine, dans ce cas-là.
Oui, bah, forcément, il y aura un pourcentage. On parle de 10% pour le revendeur, et puis le reste pour Microsoft.
Putain, la vache, les mecs, ils sont quand même un peu raides. Hein.
Et est-ce que finalement, ils ont... De cette conférence-là, je veux dire, allez, avant la Xbox 360, c'est quand même la seule console où il faut payer pour jouer en ligne. Est-ce que finalement, ils n'ont pas toujours l'impression d'essayer de vouloir tirer plus de pognon aux gens d'une manière ou d'une autre en se dirigeant vers quelque chose, en mode licence ultra individuelle.
Très 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 fermé, ouais. Extrêmement fermé comme système.
Très fermé et où tout est absolument payant, surpayant et over surpayant.
Bah, c'est sûr qu'ils aiment bien tout maîtriser. Ça c'est clair et net. Après, le Xbox Live actuellement, certes, il est payant pour jouer en ligne. Mais on s'aperçoit que côté Sony, ils sont venus sur un système payant aussi. Après, faut voir le gain entre les jeux, le jeu en ligne gratuit et le jeu en ligne payant. Le Xbox Live a toujours été reconnu comme une bonne plateforme de jeux en ligne. Après,
De jeux en ligne console, parce que par rapport console, au PC, oui, c'est quand même
le PC, c'est
un petit peu limite.
C'est autre chose. Mais un mode en ligne console, ça a toujours été une très bonne plateforme. Après, là, pour les licences, le problème c'est le dématérialisé. Hein. Si tu achètes un jeu dématérialisé, même sur PC actuellement, tu peux pas le revendre.
Ouais, sauf que tu le payes 4 fois moins cher, mais
après, il faut voir les prix qu'ils vont proposer. On ne connaît pas les prix de base sur un jeu des maths ou un jeu boîte. Donc, à voir ce qui va être proposé. Après, c'est sûr, faut pas s'attendre à des jeux concurrentiels comme sur PC. Ça, faut pas se leurrer.
Bon, sur ces bons mots, messieurs, nous allons marquer une petite pause musicale. Et donc comme on va parler de Mario Kart juste après, on nous a sélectionné une petite pause musicale un petit peu particulière. On va écouter le thème de la Rainbow Road de Mario Kart 7. C'est pas une boucle complète parce qu'apparemment il est relativement long puisqu'il y a 3 sections à la Rainbow Road. Voilà, donc ça dure 3 minutes 51 et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour dans le bar. Pour notre dernier sujet de l'émission.
Consacré.
Mais avant, JCC voulait nous dire un dernier petit mot concernant la Xbox One.
Voilà, donc la conférence Microsoft de l'E3 approche, et donc c'est le 10 juin à 18h heure française. Et contrairement à la première présentation, Microsoft a bien confirmé qu'il n'y aurait que du jeu de présenté durant la conférence. Voilà, donc normalement on devrait voir
du jeu,
du gameplay.
C'est vrai qu'ils ont quand même
de nouvelles annonces, des exclusivités. Et puis après, bon, évidemment, quelques options d'interface avec Kinect et puis des petits jeux casuels pour contenter la famille. Mais normalement, ça sera très orienté jeu durant la conférence.
Alors, je crois que c'est à 17h45, par contre, pas 18h.
C'est le pré-show
d'ici là,
qui commence un quart d'heure avant. Mais
c'est
normalement,
vrai qu'ils ont quand même prévu. Ils ont annoncé 15 exclus, dont certainement 12 jeux Kinect, mais ils l'ont annoncé.
Des jeux XBL.
Mais c'est vrai que tout ce qu'on a vu, c'était pas très jeu de la conférence. Donc ça va arriver à l'E3, comme pour la PS4 à mon avis d'ailleurs.
Voilà, ils ont scindé en deux la présentation de l'Xbox. Premier temps, l'annonce de l'Xbox en elle-même, avec les spécificités médias et télé. Et faire au salon du jeu l'E3, donc montrer que du jeu. Donc à voir lundi 10 juin.
Voilà.
Effectivement, avoir lundi 10 juin. Maintenant, on va enchaîner sur notre deuxième sujet, donc notre rubrique On refait le monde autour d'une binouze, qui pour une fois est en deuxième partie d'émission. La question qu'on voulait poser, c'est Mario Kart peut-il encore se renouveler ? Parce qu'on a eu, depuis le premier épisode, Super Mario Kart, on a eu un épisode par console de salon,
exactement.
Un épisode par console portable, si je dis pas de bêtises.
Et 3 épisodes en arcade. Enfin, 2 en arcade qui sont sortis, et un qui est en cours de chantier, qui a été montré ici au mois de février.
C'est ça.
Voilà, donc Mario Kart peut-il encore se renouveler ? C'est une question qu'on avait envie de se poser, comme on l'a dit dans l'introduction, à 2 semaines de sa présentation à l'E3.
Est-ce que ça a été confirmé que ce sera présenté à l'E3 ? Parce que moi j'ai
oui.
D'un petit peu loin. Mais...
Donc Mario Kart, Smash Bros. Et le Mario en 3D de la Wii U seront présentés à l'E3.
Avec du gameplay
de loin.
En plus. Hein.
Avec du gameplay en plus, ils seront jouables par les gens qui y seront. Voilà. Je sais d'ailleurs, on en profite pour dire que à Xboxygen, vous y serez, je crois, JC, c'est ça ?
Et oui, on fait notre baptême E3 cette année. Donc, on se déplace au salon pour voir la nouvelle Xbox et puis en profiter de voir la PS4 et les nouveautés Wii U. Donc, effectivement, on pourra mettre les mains sur la nouvelle Xbox et savoir si ça vaut le coup ou pas.
Genre, on peut déjà te couper gros suspense, ça vaut pas le coup, hein, la nouvelle Xbox. C'est tombé.
Bon,
sur le retour à Mario Kart, plusieurs choses à aborder. On va voir exactement qu'est-ce qui fait la particularité de Mario Kart. Est-ce qu'on en a marre de Mario Kart aussi? Je sais pas qu'il y a une pensée comme ça sur la série. Qu'est-ce qu'évoque Mario Kart pour toi, Emmett, qui est joueur de Mario Kart depuis je ne sais pas quand?
Depuis 2006, on va dire. Enfin, je jouais déjà avant, mais depuis le 2006, Mario Kart DS, ça a bien commencé. Moi, ce qu'évoque la série Mario Kart, c'est une série qui a un peu deux visages. Donc, un visage très convivial, très fun immédiat. Pour tout le monde, en fait. Tu joues ça avec des potes, tu te marres tout de suite, quoi. C'est tout de suite plaisant. Et puis, il y a un second visage qui est, en fait, la profondeur de jeu, la profondeur de gameplay. Parce qu'il y a toujours un mode contre la montre, et il y a toujours des records à battre, et puis tu te rends vite compte que tu passes énormément de temps sur ce jeu si tu creuses un peu et que tu cherches tous les raccourcis, toutes les petites astuces pour aller plus vite. Et donc, moi, c'est ça qui me plaît vraiment à Mario Kart, c'est le fait de pouvoir s'amuser tout de suite avec trois potes
devant la console. C'est l'accessibilité et puis, oui. Et puis la richesse derrière.
Et puis la richesse derrière, voilà, exactement.
Bah, comme beaucoup de jeux de Nintendo, Smash Bros, tu peux y jouer avec des potes qui connaissent rien, c'est la grosse foire d'empoigne, et puis t'as des championnats avec du niveau, enfin tu te ferais éclater en 5 secondes
exactement
si t'y allais.
Exactement comme Smash. C'est ça que c'est. La série Mario Kart, pour moi, c'est ça sa grande force, quoi.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses que tous les Mario Kart ont toujours été comme ça? Alors, c'est vrai que j'ai toujours été étonné de voir qu'il y avait toujours des championnats du monde de Super Mario Kart. Sorti en 92 sur Super NES, tout à fait. Il y a encore des gens qui font des championnats du monde dessus. C'est un peu hallucinant, mais.
Mais
les gens
ce jeu-là, il est carrément craqué maintenant, tellement il a été joué. Il y a des raccourcis qui sont pratiquement incroyables, qu'on pourrait pas soupçonner, quoi.
Mais il y a toutes les méthodes de turbo qui sont complètement hallucinantes dans ce jeu. Parce que il faut savoir que la technique de snaking, notamment, qui est apparue, enfin, qui a commencé à être très très populaire sur Mario Kart DS, en fait, elle existe déjà sur Super Mario Kart. C'est-à-dire, c'est indiqué nulle part. Mais si on fait du gauche-droite, 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 on a un petit boost. À la fin du gauche-droite, gauche-droite. Et donc, ça existait déjà. C'est fait exprès. Je veux dire, les gens ont décompilé la ROM, ils ont vérifié. C'est bien fait exprès. Ça a été programmé comme ça.
Ah, voilà. C'est ça, c'est la richesse derrière.
C'est assez énorme. Parce que sur DS, par exemple, quand ça a été découvert, moi, je me souviens avoir un petit peu joué en ligne. Et le snaking, je me démerdais, j'arrivais à le faire. Par contre, si on pense au snaking de F-Zero GX, laisse tomber, pas moyen. Pour moi, c'est un truc un petit peu trop out of space, quoi. Est-ce que sur le premier Mario Kart, c'était un snaking accessible ou un snaking totalement UPA?
Je vais peut-être répondre à la question parce que je connais peut-être un peu plus les techniques sur Super Mario Kart. À mes dépens, hein. C'est pas du tout fait exprès. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Hollandais qui, aux alentours de 2003-2004, a commencé à descendre tous les records du monde un par un. Mais vraiment, il est monté dans les classements officiels de Super Mario Kart à une vitesse complètement ahurissante. Et en réalité, les gens se sont rendus compte qu'il utilisait du snaking, mais comme un gros port, et que en fait, il avait limé le centre de sa manette. Je sais pas si tu vois la manette de Super NES, c'est une espèce de croix, et en fait il avait pris une lime et il avait limé le centre de la manette pour pouvoir faire des gauche droite beaucoup plus rapidement que tout le monde. Voilà, donc ça c'est la petite histoire derrière la grande.
Il va avoir des problèmes bientôt.
Il est un peu allumé, mec. Mais tout le monde, tous les joueurs de Mario Kart se sont dit putain, mais c'est trop con de perdre 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes sur les circuits. Et ils sont tous mis à limer leur manette comme des gros connards. et a commencé à se battre, ce qui fait qu'il y a même alors je sais plus si c'est sur cette technique là, oui c'est sur cette technique là, on appelle ça la NBT, la New Boost Technique, et sur cette technique là il y a eu deux championnats du monde parallèles, en fait il y a un championnat sans NBT, il y a un championnat avec NBT. Ça a vraiment divisé la communauté en deux, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on bricole vraiment le hardware pour pouvoir battre les scores, ou est-ce qu'on finalement on joue entre guillemets à la régulière?
C'est comme les Jeux Olympiques et le handisport, quoi.
C'est pratiquement ça.
Cette technique me fait un peu penser au PRB sur Mario Kart DS, le Permanent Rocket Boost, si je dis pas de bêtises. Et en fait, C'était le Snake, mais il fallait le faire tellement vite que
peut-être
tu perdais pas
le
boost du départ, voilà. Et de cette là, tu pouvais couper à travers l'herbe, t'étais pas ralenti du tout.
Le boost du départ, le boost quand le circuit démarre, quand tu fais un démarrage turbo, en fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah oui, carrément.
Donc
ah,
tu devais garder ce boost du 3-2-1 parté, quoi. Et enchaîner le Snake à une vitesse démoniaque pour réussir à le conserver. Et comme toi, tu pouvais passer sans être ralenti sur l'herbe et le sable et tout ça, quoi.
Et c'est quand même les trucs de
c'était
Jedi,
la grosse
quoi.
Technique de jeu. Et il y avait aussi, justement, il y avait aussi des classements en ligne et ils avaient aussi séparé avec PRB, sans PRB.
Oui, parce que tu te rends compte que, parce que déjà le snaking sur Mario Kart DS, t'avais vraiment deux catégories. Hein. Moi, je me rappelle que les dernières fois que j'ai joué en ligne à Mario Kart DS, ça date d'il y a très longtemps. Mais en gros, je crois que c'est à 4 en ligne, tu me confirmes?
C'est à 4.
T'en avais deux qui étaient à peu près 25 secondes devant les deux derniers, quoi, en gros. T'avais les mecs qui snakaient, ils étaient 25 secondes devant, les mecs qui snakaient pas, 25 secondes derrière. Voilà.
Ouais.
Et ça faisait vraiment, ça effectivement, un jeu à deux vitesses, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais là, c'est curieux parce que là, on est directement en train de parler de trucs. Enfin, on est un petit peu de taré aussi, mais on est en train de parler de trucs vraiment de techniques qui nécessitent un skill un minimum avancé. Alors que dans le fond, Mario Kart, c'est vraiment l'essence même, comme tu le disais, du jeu au fun incroyable, quoi. Et, comme tu dis, c'est le jeu qui a deux visages, quoi. Et quelque part, est-ce qu'on a encore des choses à attendre d'un éventuel nouveau Mario Kart? Est-ce que quelqu'un a des idées un petit peu de...
Un jeu en HD déjà?
Ouais, mais vraiment sur le plan du jeu.
Un
jeu
en
HD, il faut sur un émulateur et c'est bon, quoi.
Ouais, voilà, moi je pense pas que ce soit ce qu'il faut pour Mario Kart Wii U. Enfin, forcément il sera plus beau, mais de toute façon Mario Kart c'est cartoon, on cherche pas les gros graphismes, c'est plus dans le gameplay. Moi ce que je pense, c'est que on va encore avoir une nouveauté, hein, comme à chaque Mario Kart sa nouveauté. Sur Mario Kart 7, on a eu le Delta Plane et puis le mode sous-marin, on peut rouler sous l'eau. Ça change un peu les codes de Mario Kart, hein, puisqu'avant, quand on tombait dans l'eau, l'Akitu nous repêchait. Et sur Mario Kart 8, on avait les motos, enfin on a toujours
petit
changement.
Ça reste quand même de la nouveauté un peu mineure, quoi, je veux dire.
Oui, mais ça change le gameplay, quand même.
Alors,
à l'essence de Mario Kart.
Les motos, ça a fait officiellement un championnat à deux vitesses.
Oui, voilà. Aussi.
Là, c'était officiel, il y avait vraiment les cartes d'un côté et les motos de l'autre. Et effectivement, quand t'es débutant, tu joues en carte. Quand t'es un peu plus avancé, tu finis par jouer qu'à la moto parce que sinon t'as à peu près aucune chance.
C'est ce qui est dommage parce que je trouve que c'est un peu moins fun à la moto qu'en carte.
Je suis assez d'accord. Mais voilà, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore innover? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce qu'on va pas en avoir un moment marre de Mario Kart? C'est-à-dire que quand tu regardes tous les clones qui existent de Mario Kart, il y en a quand même un certain nombre, ils se sont tous vautrés. J'en connais pas un seul qui a fait des chiffres de vente ne serait-ce qu'honorables, peut-être Crash Nitro Racing ou un truc
non,
comme
mais
ça.
Mais... À la limite, on s'en fout des chiffres de vente, mais en termes de qualité.
En termes de qualité, t'en as pas un seul qui le dépasse. C'est quoi la recette miracle? C'est pas juste parce qu'il y a Mario dedans.
Il y a Diddy Kong Racing quand même qui. Enfin, moi je. Bah,
Diddy Kong
Racing
qui rejoue aujourd'hui, c'est pas inintéressant, mais je veux dire. C'est pas Mario Kart, quoi.
Ouais, c'est pas le même. C'est plus orienté solo déjà.
Déjà, c'est beaucoup plus orienté solo, mais. Pour toi, Emmett, qu'est-ce qui fait vraiment le. Qu'est-ce qui fait qu'on en redemande encore finalement?
Est-ce qu'on en demande encore déjà? Je sais pas, Emmett, t'en as peut-être marre, t'as déjà par exemple.
Moi, je demande surtout, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est une optimisation du mode en ligne. Hein, quelque chose qui tienne bien la route. Parce que sur Mario Kart 8, ça allait, mais sur Mario Kart 7, il y a eu un pas en arrière, j'ai eu l'impression. Enfin, c'est plus dans la technique, mais c'était pas vraiment pensé pour les gens un peu comme moi ou comme. Des gros joueurs, quoi, qui ont envie de retrouver...
Pour les compétiteurs, quoi.
Pour les compétiteurs, non, c'était pas du tout ça, puisque, bon, il y avait des petits détails qui fâchaient, souvent des erreurs de connexion, des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, sur la scène compétitive de Mario Kart 7, c'est un peu moins ça que quand on était sur Mario Kart 8, quoi. Donc moi, j'attends une optimisation du mode en ligne avec des classements en ligne qui reviennent, ce qu'il y avait sur Mario Kart 8. Et dans le gameplay, en fait, je fais confiance à Nintendo. Je me dis qu'ils vont nous pondre une nouveauté qui va encore une fois nous intéresser.
Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec le gamepad à part s'en servir comme rétroviseur?
Ah, ça, bah, déjà de base, ça va permettre de jouer à 5 comme sur Sonic et Sega All-Star Racing, je pense.
Alors jouer à 5 dans le même, ouais, effectivement, jouer à 5 dans le même salon.
En local, quoi.
En local. Intéressant.
Dont un dans son coin avec l'écran du gamepad, quoi.
Exactement.
Il y en a un qui peut jouer aux chiottes, c'est vachement pratique.
Ouais, sinon, le gamepad, je vois pas trop ce qu'il peut apporter, si ce n'est un deuxième écran, un peu comme les Opus DS et 3DS, pour avoir le classement, les objets, et puis la carte.
De toute façon, il peut pas apporter plus. Si on joue à plusieurs sur la même console, tout le monde, on peut pas jouer avec deux gamepads, déjà. Donc il peut pas apporter plus au gameplay, ça peut gêner les autres s'il y a plus d'avantages sur le gamepad ou l'inverse. Donc à mon avis, ils peuvent pas donner des spécificités énormes sur le gamepad pour jouer à Mario Kart, enfin je vois pas comment.
Alors, on me souffle à côté de moi que Mario Kart pourrait aussi devenir Mario Caddy. C'est-à-dire avec des courses de caddie de supermarché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tombes dans un rayon, bah paf, tu as ton caddie rempli et c'est parti, quoi.
Bah, pourquoi pas. Hein.
Moi, le seul truc vraiment qui me vient avec le gyromètre, c'est quand on a une carapace verte, de pouvoir essayer de viser en pointant vers l'écran, quoi, tu vois, en s'en servant comme un pointeur.
Le truc complètement crédible, tu vas jouer avec le stick, sauter, glisser en même temps et diriger ton gamepad pour essayer d'envoyer la carapace verte.
Bah ouais, tu me prends pour qui?
C'est un peu surréaliste
en même temps.
Quand même.
Non, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, même pour lancer une peau de banane en avant. Une peau de banane Siri Wata. Voilà, c'est peut-être ça en fait la grosse nouveauté du Mario Kart Wii U qu'on va avoir, c'est Iwata jouable en personnage avec plein de bananes
autour. Le boss de fin, enfin le boss de fin du dernier niveau, c'est Iwata.
Ouais. Avec un casque en forme de bananier.
Ce qui serait pas mal peut-être, ce serait d'utiliser le micro du gamepad pour pouvoir parler entre potes dans une partie, quoi, en ligne.
Ça c'est vrai que c'est le genre d'option qui manquait quand même pas mal sur la version Wii. Nous, le serveur Mumble du dojo sur lequel nous sommes actuellement... on l'avait monté en partie pour ça. Enfin, je l'avais monté, moi, en partie pour ça. Ça a dû servir deux ou trois fois, hein, mais...
Mais oui, c'est vrai, sur Nintendo, il n'y a pas de réseau chat vocal
en jeu,
sur le PSN.
Il y a un peu, mais c'est marginal, quoi.
Ouais.
Il y a eu un petit peu, mais c'est vrai que c'était quand même très marginal. Donc toi, tu penses qu'il pourrait lancer ça? Genre, il pourrait lancer le Wii U chat en direct des jeux?
Bah, ce serait intéressant. Ça serait... Mario Kart, c'est un jeu où on rigole, enfin... Voilà, donc si on pouvait avoir les réactions à chaud de ses amis en ligne, ce serait super, quoi.
Ah, t'as pas peur du syndrome quand même, Kevin de 12 ans qui passe son temps à t'insulter en irlandais?
Je parle uniquement du mode entre amis, quoi, pas en mondial contre des inconnus.
Ah oui, d'avoir des salles réservées, ouais, c'est ça, ta liste d'amis, quoi, en gros.
Ouais, voilà.
Non, parce que après il y a le problème, c'est que je sais ce que va te répondre Tonton Satoru. Il va te dire oui, mais si tu veux entendre tes amis te marrer, t'as qu'à les inviter dans ton salon, quoi. Il a un peu raison d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'effectivement je vais peut-être, moi personnellement, quand je joue à la maison, j'ai quand même assez peu tendance à jouer en ligne. J'ai quand même beaucoup plus tendance à jouer tout seul en réalité. C'est quand des gens viennent que je joue à plusieurs. Alors après, je suis peut-être un cas particulier, et c'est vrai que le fait de pas avoir de chat, ça fait que t'as peut-être un peu moins envie de jouer en ligne, parce que tu vas effectivement pas avoir les réactions des gens, pas pouvoir discuter avec. Mais, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, si par rapport à Mario Kart Wii, la seule nouveauté c'est ça, ça va quand même faire un peu léger, tu crois pas?
Non, ouais, c'est clair, mais bon. J'essaie de trouver une utilité au gamepad, hein, je réfléchis. De toute façon, moi, je joue sur Skype avec mes amis, donc ça m'aurait pas intéressé, mais bon, je cherche.
Peut-être qu'il faut chercher les nouveautés ailleurs simplement que dans le gamepad, parce que bon, oui. Ça reste un jeu de caisse. Tu vois, peut-être que, enfin, vu que la Wii est un petit peu plus solide techniquement, ça pourrait peut-être amener aussi des circuits un petit peu différents. Donc, peut-être à l'instar de ce qui se fait sur le dernier Sonic Racing, c'est d'avoir un circuit où quand tu fais tes trois tours, chaque tour, le tracé du circuit se modifie un peu. Je me demande si tu n'avais pas déjà vu ça d'ailleurs dans un Mario Kart.
Je pourrais me tromper, mais il me semble que j'ai vu un truc comme ça où tu as effectivement un chemin qui change au deuxième ou au dernier tour.
Sur le bateau, dans Mario Kart 8, non?
Ouais, un truc de ce goût-là, mais...
Mais ça peut être, enfin, ou peut-être des circuits avec, enfin, des machins un peu plus fouillés, je sais pas, genre mais, des vis en plein embranchement.
Est-ce que dans Mario Kart, ce qui fait la richesse du truc, c'est les circuits, en fait, c'est le game design des circuits. D'un point de vue purement joueur, je vais parler pour moi, je trouve qu'effectivement, ça fait partie du charme du truc, les circuits, c'est-à-dire qu'ils sont quand même toujours relativement bien pensés, même les circuits extrêmement basiques. Je pense par exemple au, je sais pas si tu te rappelles,
au
le circuit Baby.
Oui, l'espèce d'ovale
à la con. Au final, tu quand t'es à plusieurs, tu te tapes quand même des bonnes barres parce que tout le monde se fout sur la gueule. C'est vraiment le gros n'importe quoi. Et quand tu regardes ce qui se fait en time trial, c'est quand même assez bourrin quoi. Les mecs, ils arrivent à sortir des scores là-dessus qui sont assez scotchants. Donc je sais pas, je me dis que le travail sur les circuits, en tout cas pour le joueur, c'est quand même un truc super important. Donc les circuits qui se modifient au fur et à mesure, je sais pas si ça...
Bah.
Je sais pas si ça plomberait pas un peu le truc. D'un point de vue compétiteur, toi t'en penses quoi au niveau des circuits? Tu trouves que c'est plutôt bien foutu, Emmett, ou tu trouves que c'est plutôt... Enfin, tu trouves que ça fait partie du...
Des changements entre les tours?
Ouais, par exemple, mais est-ce que de manière générale, tu trouves que les circuits de Mario Kart contribuent un petit peu à l'aura du jeu?
Ah oui, complètement. Bah... De toute façon, on retrouve à chaque fois les mêmes univers, mais c'est toujours bien pensé, quoi. Enfin, il y a toujours l'endroit où il y a le petit trou sur le côté. Il faut vraiment faire gaffe de bien prendre ton virage serré, sinon tu tombes. Enfin, c'est toujours millimétré, j'ai l'impression. Donc, c'est une marque de qualité de la série Mario Kart, quoi. Les circuits sont vraiment bien faits, quoi. Et coup, d'ailleurs, si... en parlant de circuits, je repensais aux nouveautés qu'on pourrait apporter. Un éditeur de circuits, ça pourrait être intéressant aussi.
Je me suis posé la question aussi, et par contre, j'arrive pas à trouver de réponse, évidemment. Parce que, en fait, comme dit Emmett, les circuits de base sont relativement tous très bien foutus. Et je me dis qu'éditeur de circuit, bon, peut-être qu'il y aura des mecs qui auront du talent pour faire vraiment quelque chose de bien, mais que grosso modo, c'est peut-être pas évident de proposer un circuit intéressant avec.
Peut-être pas un éditeur complet, peut-être un truc qui permettrait de modifier un circuit, ce serait pas mal, où tu te dirais putain, là ce serait vachement bien qu'il y ait une espèce de gros virage de bâtard à cet endroit-là, et puis en fait tu peux juste le faire quoi. Enfin, je sais pas, je me dis que ça peut être intéressant, ne serait-ce que ça.
Sur Mario Kart 8, de toute façon, il y a déjà une scène de modeurs qui ont fait plein de circuits. Circuit maison, si on peut dire, en mettant les mains directement dans la 3D et tout ça, donc c'est un peu des fous furieux, et ils ont fait des trucs vraiment bien, donc je pense qu'on pourrait, je sais pas, se reposer un peu sur la créativité des joueurs pour avoir une petite section, un GP supplémentaire où il y aurait possibilité de télécharger des circuits sur l'Omniverse ou des choses ainsi, ça pourrait être intéressant.
Ouais, il y a des jeux qui existent déjà avec des éditeurs de circuits qui font un carton.
Genre Trackmania par exemple.
Trackmania ou Trials Evolution, un jeu de trial sur le Xbox Live par exemple. Et l'éditeur de circuits, c'est vraiment. Ça regorge de pépites en tout genre. Hein, donc ça peut permettre d'étendre les possibilités sur Mario Kart. Hein, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Puis tracer le circuit sur le gamepad.
Oui, c'est vrai que là par exemple, on a une utilité du gamepad, c'est effectivement tu pourrais tracer un circuit grossier. Je crois me souvenir qu'il y avait Mod Nation Racer.
Voilà, j'étais en train de chercher
le jeu de Sony, mais apparemment c'était ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient des choses formidables en mode, mais que ça restait quand même extrêmement laborieux à manipuler.
Après, c'est le jeu en lui-même qui est laborieux. Après, oui, à créer, ouais, c'est peut-être pas très ergonomique.
Voilà, ça fait partie par exemple des clones qui marchent pas tellement bien au final en termes de gameplay. C'est pas mauvais, mais je veux dire, c'est pas extraordinaire quoi.
Non, le jeu est très mou, c'est pas accrocheur. Le gameplay est pas du tout accrocheur. En plus, il y a des temps de chargement hyper longs entre les parties. C'est vrai que c'est un gros raté de ce côté-là. Après, ils ont sorti Little Big Planet Karting, ou je sais plus comment.
De toute façon, les éditeurs de circuits, je veux dire, même sur Trackmania, t'as des perles et t'as des trucs qui sont immondes, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui arrive à faire un truc bien.
C'est sûr que c'est pas facile. On peut trouver un pauvre circuit en 8 par certains, mais bon, il y a d'autres qui arrivent à passer du temps et qui ont du talent et qui proposent un circuit digne d'un développeur.
Alors après, il y a aussi une question de comment on le met à disposition. C'est-à-dire que si t'es obligé de scroller dans la liste des 600 circuits faits par des mecs un peu à l'ouest, c'est pas terrible. Si t'as un classement, je sais pas, des meilleurs téléchargements de la semaine, des circuits les plus joués, des circuits custom les plus joués, tu peux t'en sortir comme ça aussi, quoi.
Voilà, dans les autres jeux, ça se passe comme ça. Et des tris par classement, par popularité, par thématique, tu peux taguer ton circuit et du coup, ça fait un thème où tu peux retrouver par catégorie ton circuit. Et puis, ce qui marche le mieux, c'est par la popularité ou le classement.
Ouais, je trouve que ce serait une bonne addition à Mario Kart, quoi.
Tu penses qu'au niveau compétition ça pourrait être jouable, tu sais, d'avoir comme sur Trackmania où t'as des packs de maps custom qui sont joués en compète?
Sur compétition, je ne pense pas. Je pense que compétition, on se cantonnerait au circuit officiel, quoi. C'est déjà ce qui se passe sur Wii avec les modes un peu hack comme ça. Et il y a... On n'utilise pas ces maps-là en compétition, quoi.
D'accord, donc ça te sert pour quoi ? Enfin, c'est pour le fun, quoi, mais il n'y a
c'est
pas...
C'est pour le fun, exact. Ouais. C'est juste pour ça.
Ok, donc vos paris à vous pour le prochain Mario Kart. Donc l'éditeur de circuit avec le gamepad, ça fait partie des favoris ?
Bah, en vraie nouveté, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre.
À chaque Mario Kart, on dit ça. Après Double Dash, on s'est dit, ouais, ils en ont mis deux sur un kart, ils vont rien pouvoir faire d'autre. Paf, ils sortent les motos. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil.
Et moi, il y a des trucs qui m'ont plu. Enfin, j'ai pas Mario Kart 7, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais sur Mario Kart Wii, avec la chaîne Wii Mario Kart, il y avait des défis hebdomadaires, si je dis pas de bêtises, où tu devais ramasser très vite des pièces, ce genre de trucs-là. Bon, forcément, ça nous rappellerait Mad Legends vu qu'on est à bloc dedans. Mais je me dis que ce serait peut-être bien qu'on ait ce genre de choses. Et s'il y a un éditeur de circuit, qu'on puisse suggérer des défis aussi.
Ce serait super, ouais. Ça a disparu en plus sur Mario Kart 7, les challenges hebdomadaires.
C'est bien dommage.
Et c'est dommage, ouais. Et ainsi que les classements en ligne qui ont disparu. À la place, on reçoit des ghosts un peu au hasard avec des bons, des moins bons. Ah oui. Et donc on n'a plus vraiment de classement, donc on peut pas trop se situer où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est moins bon. C'est un peu dommage qu'ils aient supprimé ça, quoi. Je trouve, et j'aimerais bien que ça revienne.
Voilà, ouais, donc tonton Satoru, puisque tu nous écoutes, hein, t'as téléphoné il y a pas longtemps, voilà, t'as le cahier de doléances complet. Donc maintenant faut te bouger le cul.
T'as deux semaines.
T'as deux semaines pour tout prendre.
Donc on y est, j'aimerais bien qu'on puisse jouer à au moins 16 en ligne. Et si possible, qu'il y ait plein de monde sur le circuit. Pas autant que dans F-Zero peut-être, mais on a un truc qui déboîte la gueule.
Ça me rappelle Reggie qui disait que au plus il y a de joueurs, au plus c'est fun. À l'annonce de Mario Kart 8, donc c'était 12, c'était la révolution, et puis on repasse à 8 sur Mario Kart 7.
Mario Kart 8 en ligne à 12, c'était... Enfin, moi j'adorais, et même en... Parce qu'on n'a pas encore parlé du mode battle, mais je trouve que c'était très très bon, quoi. Et pour le mode battle, j'ai, enfin, à part le fait qu'ils peuvent faire de très bons niveaux, comme par exemple le Blur de la 64, j'ai pas du tout d'idée de mode de jeu qui pourrait convenir à la Wii ou à une perspective innovante pour la série, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est pas évident. Mais ça, c'est le genre de truc qui peuvent te sortir du chapeau. Un mode FPS, ou je sais pas quoi. Dike.
Un mode FPS à Mario Kart.
Pourquoi pas?
Ça.
Bon. On va peut-être se quitter sur ces bons mots, parce que je pense qu'on a fait un bon tour de la question Mario Kart, en tout cas, et on a eu des réactions intéressantes. Il y a eu quand même quelques petites propositions de nouveautés que je trouve pas idiotes. Il y a vraiment des choses qui seraient à creuser. Effectivement, bon, on va
compte sur Nintendo
nous annoncer,
pour nous surprendre, mais... de toute façon, comme d'habitude.
Mais de toute façon, je pense qu'ils vont nous surprendre comme d'habitude, et puis s'ils nous surprennent pas, de toute façon, on l'achètera quand même parce qu'on est des gros moutons.
De toute façon, Satoru nous a écoutés, donc...
Voilà. Ça devrait le faire. Alors messieurs, je vais vous demander le mot de la fin, donc. Emmett, le mot de la fin.
Le mot de la fin, mot.
Pas mal. JCC, le mot de la fin.
E3.
Classicisme. Ouais. Méduse, le mot de la fin.
Xbox 0.
Et moi je vais vous dire bite à roulette. Voilà, non, c'est
pas Wunderbar.
Wunderbar. Voilà, nous on se retrouve dans deux semaines, normalement. Et,
Peut-être
dans une semaine.
Parce qu'il y a Konami qui fait une conférence le 6. On va réfléchir à comment est-ce qu'on va suivre l'engin.
Voilà, comment est-ce qu'on va suivre l'engin. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on vous tiendra au courant. Et donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et
surtout bonne nuit.
Merci
à l'invité d'être...
Merci pour l'invitation, en tout cas.
Merci.
Merci tout le monde, au revoir.
Salut.
Salut.